Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre magazine Archivif en lien avec le département de l'Ardèche et les 07 merveilles de notre beau département. Nous sommes aujourd'hui en compagnie encore et toujours d'Enzo Roux, chargé de mission 07 merveilles de l'Ardèche, qui est le fil rouge de ces rendez-vous archivifs. Bonjour Enzo.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
À vos côtés, Claire Mialaret du château de la Rivoire. Bonjour Claire.
Bonjour.
Gaëtan Bouchard de Chazotte également à nos côtés pour le château de Chazotte. Bonjour Gaëtan.
Bonjour à tous.
Et enfin Pierre Caria, président des Amis de l'Orgue de Chalencon. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors tous ensemble aujourd'hui on va évoquer ces 07 merveilles de l'Ardèche et ces événements qui ont pour vocation de valoriser la culture et le patrimoine au sein de notre beau département. Peut-être Enzo Roux, une petite mise en contexte pour débuter cette émission.
Oui, tout à fait. Alors nous avons tout juste terminé l'édition 2025 des 07 Merveilles de l'Ardèche qui nous ont fait découvrir 7 nouveaux sites extraordinaires avec des animations toujours plus grandioses, de la musique, du théâtre, du sport tout au long de cette année. Mais on voulait quand même revenir sur la programmation 2024 qui nous a aussi émerveillés tout au long de l'année 2024. Pareil, c'était l'idée d'avoir un cycle événementiel avec 7 dates où on allait mettre en valeur un site patrimonial avec une animation culturelle, un événement culturel, soit qui était déjà inscrit dans les murs de ces sites sur lesquels nous reviendrons, festival de musique, festival d'orgue, ou alors une nouveauté, je pense à une scénographie extraordinaire qui a pu se dérouler l'an dernier au château de Chazotte par exemple, mais nous y reviendrons également. Alors le programme s'est tenu autour de ces trois invités à peu près dans l'été. On a commencé en juillet avec le château de la Rivoire pour fêter la 6e édition du festival de musique qui a lieu chaque année depuis 2018. Nous y reviendrons avec plusieurs choses, du jazz, une soprano, un concert de musique d'ailleurs. Voilà, 3 jours de festival qui se sont reproduits cette année et qui se reproduiront, je l'espère, l'année prochaine. Également en mois d'août, le 14 août, nous fêtions les 50 ans de l'orgue de Chalencon, des concerts de l'orgue de Chalencon. Nous y reviendrons avec Monsieur Caria dans quelques instants. Et bien sûr, les journées du patrimoine étaient rythmées au château de Chazotte par les 400 ans d'histoire que l'on célébrait au château de Chazotte autour d'une scénographie et de différentes visites organisées par le propriétaire et sa famille.
Alors on va revenir sur tous ces événements et ce que le fait de participer à ces 07 merveilles de l'Ardèche a pu vous apporter à toutes et toutes autour de cette table. Auparavant, on va présenter un petit peu les sites en question. On commence avec vous, Gaëtan Bouchard de Chazotte. Le château de Chazotte, il est dans votre famille depuis de nombreuses générations ?
Il est dans la famille depuis bientôt 300 ans, puisque la famille a acquis cette construction en 1728. Voilà, donc nous avons aussi ce petit objectif de fêter plus familialement, d'ici 2 ans, le 300e anniversaire de l'installation de la famille dans cette propriété qui a toujours été habitée en résidence principale. Il a été construit en 1624 après l'existence d'un petit manoir, d'ailleurs Chazotte ça veut dire petite chaumière, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité d'aujourd'hui, et bâti pour se protéger pendant les guerres de religion, puisque notre village était le dernier village catholique. Mais en fait, terminé quelques années seulement avant la paix d'Alès de 1629.
Quand on est comme ça l'héritier d'autant d'histoires, est-ce qu'il y a une pression particulière à continuer à entretenir, bien sûr, mais aussi à faire vivre ces murs ?
Il y a une pression financière qui est certaine et qui est toujours un peu inattendue parce qu'on a l'habitude des lieux, on ne fait pas très attention, on y vient en vacances avant de reprendre. On reprend parce que c'est logique et qu'il faut transmettre. Et puis on va de découverte en découverte avec des murs à reconstruire, des toitures, bien sûr, c'est le cas de tous. Une poterne d'entrée à reprendre, des chenaux à refaire, de fond en comble, beaucoup de communs qui sont aussi très abîmés, qui n'intéressent pas beaucoup parce qu'ils sont en périphérie, on ne va pas trop voir ce qui s'y passe, et puis on se rend compte que en fait, c'est effondré et que si ça continue, ça va être de plus en plus grave. Un challenge d'organisation et aussi un challenge financier, des dossiers à monter dans un bâtiment inscrit, et là je dois remercier aussi l'intervention de la DRAC et du département de l'Ardèche qui nous ont beaucoup aidés dans ces premières phase de restauration.
lorsque vous accueillez du public sur, sur votre site et sur votre château. J'imagine que cette transmission, ce partage aussi de la culture locale et de l'histoire du château, c'est quelque chose qui est très important pour vous.
Oui, alors d'ailleurs, on a fêté le 400e anniversaire de la construction lors des journées du patrimoine 2024. Tout ça fait partie de notre histoire et de fait, la commune, les habitants ont bien joué le jeu en nous donnant des coups de main. Enfin, c'était très sympathique aussi pour nous. Et puis, nous avons repris il y a 4 ans, c'était un peu une manière pour nous aussi de dire, bah voilà, on est là, la nouvelle génération est aussi présente et on va tâcher de continuer.
L'histoire avec un grand H continue. Je me tourne vers vous, Claire Mialaré, pour le château de la Rivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet édifice à votre tour ?
Oui, bien sûr. Donc, le château de la Rivoire, il est à Vanosque. Vanosque, c'est à une dizaine de kilomètres d'Annonay. Ce château, alors ma famille ne l'a pas acquis il y a 400 ans. Elle l'a acquis il y a 25 ans, ce qui est un peu ridicule, mais enfin bon.
Et donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je suis ce qu'on appelle une propriétaire gestionnaire de ce monument historique qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire depuis 2006, je crois. C'est un château qui a une particularité quand même assez étonnante. C'est que quand on l'a visité pour la première fois, on a eu l'impression qu'il n'avait pas bougé depuis le début du XVIIIe siècle, puisque sa construction remonte au début du XVIIIe, entre 1720 et 1740. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis le XVIIIe, ce qui est exceptionnel en termes de décor intérieur, ce qui, par certains autres côtés, n'est pas exceptionnel du tout, parce qu'il a fallu faire beaucoup de choses, installer des sanitaires, revoir le chauffage, enfin bon, des choses tout à fait habituelles. Mais maintenant, il est, je dirais, en bon état de marche, et on est ravis d'y être et on y est ravis d'y accueillir le public toute l'année.
On va revenir tout à l'heure sur le festival que vous y organisez depuis quelques temps et qui s'est inscrit en 2024 dans ce programme des 07 Merveilles de l'Ardèche. Avant cela, on va évoquer l'orgue de Chalencon, puisque Pierre Caria est avec nous également, président des Amis de l'orgue de Chalencon. Qu'a-t-il de remarquable, Pierre, cet orgue ? Racontez-nous.
Ce qu'il a de remarquable, c'est que pour un petit village de 320 habitants, avoir un instrument comme ça, c'est assez exceptionnel. Bien qu'on ne manque pas d'orgue dans l'Ardèche, mais c'est remarquable. En fait, l'origine de cet orgue, c'est dû à Jean Arsac, qui avait été maire de Chalencon et qui était un humaniste. Et il a offert l'orgue à l'église sur ses propres deniers. C'est un instrument assez particulier parce qu'il a une commande électropneumatique, c'est-à-dire que le clavier est dans l'église. Donc quand nous avons des solistes, ils peuvent être à côté de l'organiste. Et il avait lancé donc en 1974 une série de concerts. Et Jean Arsac est décédé dans les années 2000 et on a décidé de reprendre le flambeau parce que c'était quand même une belle initiative. Il a fait don de l'orgue à la commune, donc c'est la commune de Chalencon qui est propriétaire de l'orgue. On fait une série des séries de concerts, soit à l'église, soit au temple aussi, parce qu'on organise des concerts au temple. Et on arrive à avoir un public assez fidèle et très, très, très amateur. Les compliments que me font généralement les musiciens me disent « mais vous avez vraiment un public très attentif et très sympathique ». Et voilà, on a une programmation assez riche.
Alors, en ce qui vous concerne, Pierre, vous êtes musicien également ou simplement mélomane ?
Non, moi je suis mélomane et je suis choriste, voilà.
D'accord, donc oui, quand même un petit peu musicien, mine de rien. Et puis c'est vrai que des chœurs accompagnés à l'orgue, ça peut être aussi très beau.
Oui, on le fait souvent.
Alors en ce qui concerne ces 07 Merveilles de l'Ardèche en 2024, tous les trois, vous avez comme ça pu bénéficier de cette mise en lumière du département. Enzo Roux, comment ces sites ont été choisis pour y inscrire des événements estampillés département ?
Eh bien, ces sites ont tous fait l'objet dans les dernières années d'une aide, d'une subvention pour des travaux de restauration, des études allouées par le département de l'Ardèche, par les différents fonds qui existent et qui ont été présentés dans le premier podcast de la saison 2 des Archivifs. Et un appel à projet a été lancé auprès des différents propriétaires pour savoir s'ils portaient ou pas des projets, de l'action culturelle, du spectacle vivant. De nombreux propriétaires nous ont répondu avec un festival à produire ou alors avec une nouvelle idée, un besoin d'aide complémentaire pour organiser, il me semble, une scénographie plus ambitieuse. Monsieur Chazotte, dites-moi.
Oui, effectivement, nous avions prévu de fêter un peu entre nous ce 400 60e anniversaire. Je disais aussi que nous venions de reprendre cette maison, donc c'était un peu notre pendaison de crémaillère. On disait, on va faire ça avec quelques amis et un peu la famille. Et puis, cette sollicitation du département nous a ouvert sur une dimension beaucoup plus large. Donc, on a pensé qu'il était bon que nous redimensionnions notre projet. Donc, ce qui devait être une petite vidéo en famille est devenu une véritable scénographie à la fois historique, familiale, locale, nationale, voire internationale. Et donc, avec un travail qui a été familial. Donc, ça, c'était très sympathique pour nous aussi, puisque cette scénographie, le scénario a été écrit par une de nos petites filles. La musique, c'était le musicien qui intervenait pour le concert qui nous l'a produite. Les montages ont été faits par un de nos gendres. Les films, les photos par les enfants, etc. Et donc, voilà, on a produit quelque chose de complètement familial, je pense d'une assez bonne qualité. Ça raconte l'histoire, pourquoi ce château ici, pourquoi cette famille, les interactions avec... avec le village, l'histoire de l'Ardèche aussi, les verres à soie, puisqu'il y a plusieurs magnaneries sur la propriété. Enfin, donc ça nous permet de passer 400 ans d'évolution du site, mais aussi dans la culture locale, dans l'économie locale, la vie de la propriété agricole, la vie des personnes qui y habitaient. Ça, c'était une demande du département, que nous parlions un peu de nous-mêmes, ce qui n'était pas une évidence absolue. Voilà. Et puis, voilà, la présence d'un site qui est un site certes privé, mais qui fait partie d'un paysage et d'une réalité locale qui nous dépasse un peu et qui dépasse le simple fait de la propriété privée, quoi, qui est aussi un patrimoine qui est beaucoup plus large, qui est un patrimoine. Voilà.
De votre côté, Claire Mialaré, au château de la Rivoire, vous organisiez déjà un festival de musique et sur cette édition 2024, avec ce label 07 Merveilles de l'Ardèche, vous avez pu bénéficier d'une communication supplémentaire, d'une mise en valeur un petit peu plus conséquente de cet événement.
Et surtout, on a pu voir que le public du festival s'était vraiment diversifié géographiquement, puisque au moment de la prise de billets, on demande que les festivaliers indiquent leur code postal. Donc on a découvert que notre festival n'était pas uniquement Ardèche du Nord. Il y avait du public d'Ardèche du Sud et il y avait aussi du public d'Isère, de Loire, de Haute-Loire. Mais c'est vrai que l'Annonay est au confluent de 3 ou 4 départements. Donc oui, ça a diversifié le public et c'est très bien.
Une fréquentation donc qui s'est diversifiée et qui, j'imagine, a augmenté aussi.
Elle a augmenté, mais les salles du château ne sont pas extensibles. Le public peut l'être, mais les salles ne le sont pas. Et on a décidé que les concerts devaient être à l'intérieur du château, parce qu'à l'extérieur, il y a des risques de vent, il y a des risques de pluie. Et l'année dernière, on a été particulièrement bien servis. Donc, en fait, on ne peut pas accueillir plus de 90 personnes par concert. C'est pour ça que les personnes intéressées ont intérêt à prendre leur billet relativement tôt pour être assurées d'avoir une place.
C'est un partenariat qui, j'imagine, a dû vous encourager et assurer aussi une certaine pérennité à cet événement qui déjà, 6 éditions, c'est déjà pas mal, mais j'imagine vous le voyez s'inscrire encore plus dans la durée.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on est, aidé pour ce festival. On a une aide du département qu'on remercie. Selon les années, une aide de la région. Et puis on a cherché des mécènes. Alors, ce n'est pas une démarche complètement évidente, mais pour l'instant, on en a un que l'on remercie. Donc, on s'inscrit dans la durée. Et c'est vrai qu'on cherche à poursuivre le modèle qu'on a monté, c'est-à-dire un festival avec des musiciens de très bonne qualité. Nous avons un partenariat avec une association reconnue d'utilité publique qui s'appelle Jeunes Talents, qui a comme objectif d'offrir des opportunités de concert à des musiciens généralement issus des conservatoires de Paris et de Lyon. On a un partenariat avec eux et on a l'immense bonheur d'avoir à choisir entre eux des très bons et des excellents sur à peu près tous les instruments. Donc c'est un travail de sélection absolument passionnant parce qu'on va écouter les musiciens et je vous dis, faire un choix entre un très très bon et un excellent, c'est difficile. Voilà.
C'est encore une fois ce qui renforce l'image de qualité de ce festival, ce qui est aussi lié à la faible jauge. Finalement, pour le public, c'est pareil, la qualité avant la quantité, on l'aura compris. Pierre Carrière, je me tourne vers vous, président des Amis de l'Orgue de Chalencourt. En ce qui vous concerne, ça a été quoi la motivation de s'inscrire dans ce programme des 07 Merveilles de l'Ardèche ?
Eh bien, d'abord, on était très très honorés de faire l'inauguration des 7 Merveilles de l'Ardèche à l'église de Chalencourt avec les responsables du département. Et ça nous a amené un plus, certainement, au niveau de la publicité pour notre saison de concert. Et puis, on bénéficie toujours de l'aide du département, de la CAPCA et puis de la région, sans qui on ne saurait pas maintenir un prix des places à 15 €, qui est vraiment pas cher pour la qualité des artistes. Et on y tient, les subventions sont faites pour ça, et voilà. Et on espère qu'on pourra continuer comme ça. Malgré une équipe un peu réduite, mais une équipe réduite, ça nous oblige à être plus efficaces. Voilà.
Antonio Vivaldi et un extrait d'un concerto pour violon et orgue dans votre magazine Archivif, un magazine dans lequel on dresse un bilan aujourd'hui de la saison précédente, la toute première saison des 07 Merveilles de l'Ardèche. Avec nous dans ce studio, Claire Mialaré du Château de la Rivoire, Gaëtan Boucharla de Chazotte, du Château de Chazotte, et Pierre Carrière, président des Amis de l'Orgue de Chalencourt, et puis bien sûr Enzo Roux des 07 Merveilles de l'Ardèche. Depuis tout à l'heure, on a dressé un petit peu le bilan de ce qui s'est passé en 2024 dans vos sites respectifs et pourquoi, et bien sûr, le concours du département de l'Ardèche a été pour vous important. Donc on a bien compris hein, toutes les motivations qui vous ont conduit les uns et les autres à vous inscrire dans ce dispositif et aussi pourquoi le département vous a suivi sur ces choix-là. Pour l'instant, pour cette partie suivante de l'émission, j'aimerais qu'on voit en quoi cette action culturelle, elle permet aussi d'offrir une porte d'entrée vers vos sites à des personnes qui en sont parfois éloignées. J'imagine que Gaëtan Boucharla de Chazotte, c'est un petit peu votre cas avec ce château. L'ouvrir pour les Journées du Patrimoine avec cette scénographie, ça a permis de faire découvrir le château à des gens qui n'y étaient jamais venus et qui pourtant peut-être habitent à quelques kilomètres.
Oui, effectivement. Alors, on est dans une histoire d'une famille, l'histoire d'un village et puis un lieu emblématique, un château qu'on ne voit pas du village, qu'on voit que de la montagne en face, et qui reste mystérieux, même pour ceux qui sont tout près. Cet événement, d'ailleurs, on a découvert que les gens du village n'osaient pas franchir, alors qu'il n'y a pas de portail. Hein, donc, on peut prendre l'allée d'entrée sans difficulté, se promener dans les bosquets. Et il y a même une convention avec la mairie qui nous permet d'ouvrir le château tous les jours, enfin, le parc en tout cas. Donc, mais les gens n'osent pas. Enfin, en tout cas, les autochtones disent, bah là, ça c'est mystérieux, c'est un lieu, c'est pas pour nous, etc. Et donc, le fait d'avoir monté cette scénographie, et puis un concert qui précédait et qui présentait 400 ans de musique, a permis de faire venir des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à Chazotte.
Et à la fois, j'imagine, pour vous, c'est un bonheur que de partager tout cela. Et pour eux, ça a dû être une découverte qui les a émerveillés, pour le coup.
Grâce à cette intervention de FR3 qui est venue couvrir l'événement, enfin en tout cas le samedi, et qui nous a fait une émission qui est passée aux 20h le soir même, ils ont interviewé toutes les personnes qui passaient, et donc on a découvert l'émerveillement que les gens pouvaient vivre en franchissant ces lieux mystérieux, en arrivant dans une cour d'honneur tout organisée pour les accueillir, et puis en participant à cette scénographie. Effectivement, je crois que les gens ont été émerveillés. On était très heureux d'ailleurs de le faire. Il y avait une excellente ambiance, voilà, partagée par tous.
Est-ce que ça a changé les habitudes, justement, ces gens qui n'osaient pas aller flâner dans les parcs alors qu'ils avaient l'autorisation? Est-ce qu'ils viennent plus facilement à votre rencontre?
En fait, c'est difficile à dire parce que la circulation dans le parc, on ne peut pas tellement la contrôler. Il y a ce sentier d'interprétation qui a été monté par les communes du pays de Saint-Félicien qui se promènent avec des questions dans des boîtes aux lettres, etc. Alors nous, pour essayer de mesurer, on met des tracts du château et qui expliquent la construction. Bon, c'est grand, les lieux sont grands, on n'est pas dans les chemins pour compter les personnes qui passent. Mais de fait, on se rend compte que c'est moins mystérieux, quoi. Même quand on rencontre les uns et les autres, on a fait tomber peut-être une petite barrière historique, culturelle, sociale entre le village et la propriété.
Ça faisait partie aussi de vos objectifs quand vous avez lancé votre festival, Claire Mialaret, pour le Château de la Rivoire, de comme ça démystifier les lieux et de permettre à tout un chacun de les découvrir autrement.
Depuis des années, on se disait qu'il fallait faire un festival à la Rivoire, et puis avec des vies professionnelles un peu chargées, on ne s'était jamais lancé dans l'opération. Et puis c'est des travaux de restauration de la toiture, initiés en 2018, pour lesquels on a eu une aide substantielle de l'État, du département et de la région, qui nous a fait nous lancer dans cette opération. Parce que la région, à l'époque, nous a demandé, à titre de contrepartie, d'organiser un événement culturel. Donc, ils ont dû nous demander ça au mois de mars. On s'est dit, mon Dieu, c'est juillet, août et septembre. Donc, on s'est lancé à corps perdu dans un premier festival avec un fort degré d'improvisation, faut quand même le reconnaître. Finalement, on a pris le virus et on s'est dit que c'était une occasion rêvée de faire découvrir le château à des gens qui ne le connaissaient pas ou, le connaissant, n'y allaient pas. Et donc maintenant, on est très content de cette interaction que ça a pu créer entre le château, le village de Vanosque et les villages alentours, et de plus en plus éloignés d'ailleurs. Et c'est chaque année à la mi-juillet. En 2025, c'était le 11, 12, 13 juillet. Les dates sont toujours visibles sur notre site internet et les auditeurs peuvent devenir des contacts en s'abonnant à nos newsletters, et donc ils seraient informés des dates et du programme du festival.
Ça fait 50 ans que les amis de l'orgue de Chalencon contribuent à la belle vie de cet instrument. Très objectivement, Pierre Caria, sans votre association, est-ce que cet orgue aurait survécu jusqu'à nous aujourd'hui?
Ça, je ne saurais pas le dire, mais oui, je pense que ça contribue, bien entendu, oui. Et d'ailleurs, donc François Arsac, quand il a fait don de l'orgue à la mairie, c'est qu'il craignait qu'il soit démonté pour aller dans un autre édifice, parce que c'est vrai, Chalencon, c'est pas très très gros, et c'est ce qui... C'était son inquiétude, un peu, voilà. C'est pour ça que c'est la mairie qui est propriétaire de l'instrument.
Et avec votre association, vous contribuez bien sûr à son entretien et à ce qu'il soit utilisé à sa juste valeur.
Voilà, parce qu'il est, il est très bien entretenu. On fait venir régulièrement le facteur d'orgue. Pour tous les concerts, il vient accorder l'orgue avant et ça représente une sacrée somme.
En ce qui vous concerne, Pierre Carrias, est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer autour de votre association pour cette fin d'année 2025 ou en 2026?
Nous recevons régulièrement des chœurs de la région ou des musiciens dans l'église. On essaye d'ouvrir un peu et puis de trouver des dates un peu en dehors de l'été, parce que c'est vrai que c'est au cœur de l'été qu'on remplit un peu nos salles, mais on est obligé de tenir compte de ça. On aimerait faire plus de concerts, mais c'est pas toujours facile.
Bon. On voit dans la programmation qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec d'autres acteurs culturels très dynamiques sur le territoire. Cordon Ballade, je vois dans le programme qui reviennent souvent.
Oui, parce que moi je suis un fan de Cordon Ballade. Je suis le festival depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, le Quatuor de Bussy a fait son premier concert dans l'Ardèche à Chalencon, quand il était encore pas très connu. Depuis au moins 15 ans, en début de festival, j'accueille des jeunes talents de l'Académie des Quatuors des Cordes en Ballade. Et c'est vraiment toujours une qualité, c'est incroyable. Il y a énormément de jeunes musiciens. Et c'est un vrai plaisir de les accueillir et puis de leur donner un peu un coup de pouce. Et voilà.
Il y a un site internet où on peut retrouver votre association ?
On peut me retrouver sur la mairie ou sur le site du tourisme de l'Ardèche. Oui, bien sûr, on est présent. On n'a pas de site personnellement.
De votre côté, Gaëtan Bouchard-là de Chazotte, pour le château de Chazotte, il y a un site internet qu'on trouve assez facilement.
Oui, châteaudechazotte.wixsite.com. Voilà, on essaye de le tenir à peu près à jour. Voilà, ça permet de donner quelques informations.
En ce qui vous concerne, Claire Mialaré, pour le château de la Rivoire, on vous trouve aussi facilement en ligne ?
On a un site internet, www.châteaudelarivoire.com. Dans ce site est présenté le festival, le programme du festival, la billetterie du festival. Et puis, il y a une rubrique événements où on présente les journées du patrimoine. Donc oui, on peut nous trouver et trouver les événements qui sont organisés au château sans aucun problème.
Eh bien, on ne manquera pas d'aller faire un petit tour. Avant de se quitter, Enzo Roux, chargé de mission 07 Merveilles de l'Ardèche, un mot peut-être sur le prochain podcast pour le mois de novembre.
Déjà, pour clôturer celui-ci, on l'a vu, ces différents acteurs ont tous des projets culturels très riches, très intéressants, qui croisent de nombreuses disciplines, de nombreuses parts du spectacle vivant, des concerts de classique, de jazz et d'autres genres musicaux ou d'autres événements. Et c'est tout ce qui fait la variété, la fierté des différentes merveilles que l'on peut retrouver en Ardèche et que l'on espère pouvoir continuer à mettre en valeur dans ce programme des 07 Merveilles de l'Ardèche encore en 2026. Restez à l'affût sur le site internet du département, les prochains programmes arriveront assez rapidement. Le prochain podcast, nous retournerons le mois prochain sur différents aspects des 07 Merveilles 2024-2025 et on creusera un petit peu plus cette question-là du spectacle vivant, du sport et d'autres disciplines culturelles ou sportives, dans quelle place ils peuvent trouver dans ces patrimoines tout au long du département de l'Ardèche.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Enzo Roux pour le département de l'Ardèche, Pierre Caria pour les Amis de l'Orgue de Chalencon, Gaëtan Bouchard de Chazotte pour le château de Chazotte et Claire Mialaré pour le château de la Rivoire. On vous souhaite bien sûr de très belles choses pour vos lieux respectifs et puis à très bientôt sur nos ondes.
Merci, à bientôt.
Archivif, un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.